des hublots, vous pouvez bien sûr apercevoir le lac, son eau libre, sa forêt flottante, son marais. Vous pouvez même ne voir que ça. Sachez cependant que tout autour on trouve la Buchetière, la Papinière, le Moulin de la Verderie, la Basse-Cour, la Noue, les Rairies, la Chaussée, la Vincée, les Enfers. Oui. Mais le temps de le dire et nous voilà en ville. Demi-tour. Vous avez peur ? Je poursuis. Pendant que nous amorçons le virage, sous vos fesses, le champ de foire. Puis la métairie de l'angle, de l'autre côté, la Tuilerie et la Mauricière. D'ici, le lac s'épanouit, papillonne, ouvre deux ailes autour d'un corps très mince, canal qui serpente comme une colonne de fumée, se rétracte, se contracte en hiver, en été, joue des couleurs et de son miroitement. Attention, nous allons descendre, mordre l'eau, remonter, vous y êtes ? La Grand-Ville, le Gotha, les Ormeaux, les Écobus, l'Épine Verte, la Lésinière. D'en haut, les noms de hameaux portent au rêve, vous ne trouvez pas ? Grand Marais en vue. D'ici, du ciel, le lac s'éploie, danse, entre, écarte les terres et s'épanche. Pardon, je parle bizarrement pour un guide ? Au contraire, qui vous dit que je suis un guide ?
Une surface. Une simple surface. Du bleu et du vert sans aucune nuance.
La gendronnerie.
Rien que des aplats.
La landaiserie.
Un rassemblement de pixels semblables.
Les épinets.
Voilà comment apparaissent d'abord le lac.
La noue.
La forêt.
Les poteries.
Tu planes, survoles les champs.
Les
invisibles
mairies.
Pour les humains. Tu te faufiles dans la matière même des nuages.
La pommerie.
Unique subtilité de cette exploration censée te procurer du plaisir.
Les
ou au moins te distraire.
La
te hisser d'un niveau tandis que tu perces le ciel.
La haute gobie.
Tu ne vois de la terre que ce qui s'appelle « je » dans cette vie dite « seconde »
la
virtuelle dont tu es issu. Tu ne distingues rien du relief, de l'ombre, de la découpe des côtes. Tu ne devines pas les strates, les couches, ce qui se cache.
La Mose, le Landais.
Tu voudrais t'élever, t'approcher de ce qui, plus haut que
Belair.
Toi encore, fait hors de plomb. Effleure ce qu'ils appellent parfois frondaison, canopée, mots qui ne t'atteignent pas.
La tranchée, la frondaison.
Tu ne sais même pas le mot branche.
L'aumière, la tuilière.
Le mot feuille.
La chaussée, la michellerie.
Et l'ombre, les vagues.
La métairie.
Le clapotis, l'orage.
Le logis.
Tu ne sais rien.
Le champ de foire.
Tu n'as pas d'aile, tu n'es pas un oiseau. Si tu
les
ressembles à une femme
de
lorsque
la
le jeu
folie.
Démarre, c'est simplement parce que quelqu'un t'a dessiné de cette façon.
Grand-Ville.
Au moment de l'inscription, lorsqu'il a fallu t'appeler, c'est un prénom de fille qui est venu dans la case à cocher.
La Goubarderie.
Et un nom de savant dans le menu déroulant.
Le Moulin.
C'est tout. Mais pourquoi non ?
L'Épine, la Noé.
Tu pourrais, tu peux ressembler à tout un tas de choses. Un livre ne suffirait pas à dire la forme que tu prends à partir de ce corps de femme. Car il suffit de réagencer les éléments, lignes, articulation et détails à chaque nouvel épisode pour te faire exister, n'est-ce pas, dit Agapère. Tu penses que tu vas filer, frôler ce paysage que tu survoles, à peine arrivé déjà loin, en être quitte à l'instant même du ciel, du pays en dessous, comme tu as franchi les
l'Aubrée,
mers, les villes que le jeu développe,
la Grand-Ville,
extension infinie
le Gotha,
de tes frères avatars,
les Maros,
colonise, entasse,
le Mortier,
colonise,
le Monceau, la Valerie,
renforce,
la Serinerie, belle vue de Grand Marais.
La Rive, qu'est-ce à dire ? Deuxième vie ? Double vie ? Vie seconde ? Et que se passe-t-il lorsque le jeu n'intéresse
la
plus
garnerie,
les humains ?
La Guillotrie,
ce qu'ils ont créé.
Le Moulin de la Verderie, la Verderie, le
Faust,
Brandé,
la Rive,
la Tuilerie.
Toi, dans le ciel,
la Papinière.
Au-dessus, du vent et les réacteurs de l'avion que tu t'acharnes à suivre, dont un hublot
le
t'attire et t'aimante depuis un instant.
La Sauzée, la Barre.
Toi, très seulement.
Saint-Saint-Florian.
Où es-tu au juste ?
Le Grand Champ.
Tu le sais ?
La Mauricière.
Tu n'es plus dans le jeu. Tu le sais ? Je vais te dire où tu te trouves. Au-dessus des côtes d'un pays dont
Réunion.
Tu épouses le tracé du nord
la
au
meilleure.
Sud. Pour mieux t'en rendre compte, pense littoral, opale, descend Betsov vers les phoques et les vaux marins. Guide-toi aux filatures, brouillères. Voici tes points d'appui. Le long de la côte d'Alba, des falaises, des
anguilles,
des aiguilles. des stations balnéaires avec planches et fleurs, une digue circulaire, pleine mer, un parc pétrolier. Pense ensuite viking, vasière, invoque des images d'enfance.
La cour de la forêt.
Ah, mais tu n'as pas d'enfance, j'ai oublié.
La maison neuve.
Que te dire d'autre pour te mettre sur la voie? Tu frises les collines, plonges vers les dunes et les champs de bataille. Te voilà promontoire, enceinte, forteresse.
La
te voilà rempart, cachette crénelée, promenade par le haut de la cité corsaire qui révèle la mer dans des virages en coude. Te voilà île.
La gendronnerie.
Îlot. Tiens,
la
ces mots-là te disent quelque chose.
Chape.
Te voilà reparti.
Le moulin.
Tu frôles les forts, les
Chape.
Capes, les plateaux. Tu pourrais atterrir sur la lande, arracher les bruyères, remonter. Mais les angles aigus t'inquiètent. Les rochers s'avancent, prêts à l'écorchure. Ils pigmentent ta chair de poule. Tiens, tu n'es plus, c'est fait, avatar en deux dimensions.
Saint-Joseph,
des phares, des chapelles,
vue,
des dolmens devenus calvaires, des mausolées de granit, des
ponts,
des fortifications,
Saint-Aignan,
un golfe, des dédales, des îles, toujours des îles. Reliés, séparés, et des marais, estuaires, des maisons troglodytes.
La
voilà
Baudronnière,
équivoque,
la villa,
sale et mouille les terres, efface les frontières de
la
pierre. Voilà ce qui t'embrouille l'esprit.
La Bornecède.
Écoute, dit Kepler, voilà ce qui se passe. Tu quittes l'interface, tu l'as quittée, c'est tout. À chaque reprise, chaque fois que tu te connectes à cette seconde vie qui, de fait, est pour toi la première, quand tu te lances dans un nouveau parcours, tu oublies la partie d'avant, durant laquelle déjà, tu t'étais propulsé ailleurs. Tu ne te rappelles plus ce qui a fait obstacle, ta contrainte à changer de forme, de territoire, à sortir du jeu. Pourtant, c'est simple, ce qui te perturbe ainsi chaque fois, t'éloigne des surfaces planes, désagrège les pixels, te balance dans des villes, des jardins, des cours, qui arrase autant qu'il révèle, circonscrit et remue, provoque, étire, réduit l'homme à son monde, le tout à sa partie, sert d'argument au juge, assomme, projette, envoie en arrière et secoue, grippe et dégrippe et peut, l'instant d'après, soutenir le chant, l'élan, le rêve, porte un nom que chacun connaît, c'est le réel. Il écrase, Zo, tu ne trouves pas? Il t'arrive de sortir du jeu, oui. C'est même le cas sans cesse. Mais en avoir conscience en permanence pour toi, est-ce possible? Avec toi, l'interface primitive s'efface. Le décor disparaît. Chaque entrée dans le réel peut puer, couper les jambes, faire vomir, peut décevoir surtout. Ce que les autres savent et auquel ils renoncent. Tu ne le sais pas. Tu n'as pas de mémoire. C'est ainsi que tu te jettes dehors. Pour toi, le réel n'a pas de nom constant. Inutile d'insister. C'est ainsi que tu prends des risques. Justement, voilà que tu tombes. Les côtes, les rochers s'épuisent. Un point sur la carte, c'est Nantes.
Nantes.
Mais la ville s'éloigne à son tour. Voilà que le réel s'appelle Lac de Grandlieu, gare ferroviaire de Boile, château de la Sénégerie.
Sénégerie, laitier.
Celle des noms, tant et plus.
Les terres cartières.
À détourdir, à t'assommer.
La Beauvaiserie.
Le plomb,
la gendronnerie.
Ce qui te dominait, très haut, cet objet que tu poursuivais,
comprenant
moteur, réacteur, hublot, s'absente du radar, tandis que tu te fracasses au sol. C'est fini. Tu prends contact de la lèvre, de la cheville.
Rivelière,
avec la terre de la forêt.
Tuber.
Instantanément.
Les hugotières.
Tout se met à fourmiller de.
Le redour. Les grolles. Le printemps. L'ouvrardière. Cela qu'il faudrait en parler. Ce n'est pas n'importe qui non plus. Cela qui en parle le mieux? Les pêcheurs, les chasseurs, les écologistes, les pilotes d'avion, les guides touristiques, les habitants, les poissons, les oiseaux, les microparticules. Faut-il le voir de haut, l'approcher par les champs? Faut-il y mettre la main, le pied, enfendre la surface en canot à moteur?
C'est difficile à suivre ton histoire, Lisa Kepler. Même moi, qui t'ai créé dans le jeu Second Life, je suis assez perdue. On ne sait pas où situer l'hironde. Peut-être près d'un bois. Qui lui-même longerait le lac. Une île à la bordure, en somme. Une île rive, une île frise, qui frotte, une île proche. Une qui se déplace. Sur l'île ronde se trouve un rocher, dit-on. Une pierre énorme qui bouche le gouffre d'où les eaux du lac ont surgi. Un géant, un dieu peut-être, a laissé échapper les flottes. Depuis, il est enfermé au fond de ce gouffre. On dit encore qu'il s'agit d'un puits, situé près d'un chêne et d'une plage de sable. Le géant se débat. Quand il n'en peut plus de sa vie sous terre, de ce corps qui presse, qui boue sous l'argile, quand il ne sait plus remuer le rocher qui de toute façon ne bouge pas, tempête!
On ignore la part du ciel.
Une jeune fille, vierge, précise-t-on, serait seule capable de le délivrer. Il faut qu'elle enlace la pierre et passe le bras dans un certain trou. Doit-elle faire levier, servir de clé? On l'ignore aussi. Cependant, elle n'arrive pas. Allons-y quand même.
D'ici, le lac s'épanouit, papillonne, ouvre deux ailes autour d'un corps très mince. Canal qui serpente comme une colonne de fumée, se rétracte, se contracte, joue des couleurs et de son miroitement. D'ici, du ciel, le lac s'éploie, danse, entre, écarte les terres et s'épanche. Oui, mais de la surface du lac, où glisser quand c'est interdit? De la barque sans fond qui renvoie aux légendes, aux noyés? De celle moderne qui propulse vers les eaux libres, tandis que les avions, anodins, réguliers, continuent leur chemin vers Dante? Il n'y a pas de colère par ici.
Il n'y a pas de colère par ici?
Il n'y a que des noms en bas. Aucune ville en réalité. Que des mots tracés sur le sol de carte, enregistrés dans la mémoire numérique de la carte embarquée. Ma position reliée au satellite. Tous ces noms que je pourrais effacer et il ne resterait plus que le territoire nu, le lac seul, le passage qu'il est.
Il n'y a personne?
Alors il me pilote, c'est entendu, mais les commandes électroniques seules actionnent, décollent. Sans moi, il n'y aurait pas de vol, il faut que les microprocesseurs valident tout, passif mais conscient.
Il n'y a vraiment rien?
Les épaves mécaniques, je les ressens, les localise exactement. Il n'y a pas que celles des guerres passées qui emprisonnent encore le squelette de leur pilote. Ou en sont privés quand celui-ci, il n'y a qu'un cas. C'est par miracle échappé, déshabillé, à jeter sa plaque d'identité et à gagner une ferme où se cacher. Changer de nom avant de disparaître, changer de ville, de vie.
Et quoi d'autre?
Tout est stocké dans les boîtes noires de mes boîtes noires. Composants inutiles aux hommes que seules les machines comprennent.
Et encore?
Il y a aussi des avions, des guerres en cours, qui s'écrasent en Syrie, en Libye, en Palestine, en Ukraine et ailleurs encore d'autres matins, et qui passent comme on passe dans l'autre monde pour immérir dans le lac. Je les vois, les localise, n'en dis pas un mot. Ils se contentent de piloter, de survoler. Ils ne voient rien, j'enregistre tout.
Ils?
Rien ne flotte que les données à la surface de mes composants, rien de visible pour le monde du visible.
Et puis?
Le lac, comme boîte noire du monde en conflit, sa vase est faite du sable des déserts lointains. Je suis à chaque instant au bord du court-circuit.
Sur le chemin. Qu'est-ce qui se passe si on suit la route par beau temps? Un cheval nous regarde, on entend une rumeur, il y a des iris, de plus en plus de vent. On recense les trous dans la terre. Une rumeur? Qu'est-ce qu'on entend au juste, caché par les arbres? Des vibrations, des secousses, des battements, des bourdonnements. Une excavatrice nous laboure le dos, en extrait la moelle de cette ponction lombaire verte et fraîche, calme. Et tant d'adjectifs pour apaiser les doutes, il faudrait se méfier. Du bruit, attention, aux abris. Kepler passe à l'horizontale, c'est comme se cabrer pour elle. Elle s'était dit qu'ici, et ici seulement, elle pouvait échapper aux scansions, à la folie des cris, des slogans, à ce qui, ailleurs, l'envahit. Alors du bruit, ici, jusqu'ici, en pleine campagne? Elle file, elle se faufile, pas question que ça l'atteigne, sinon où atterrir la prochaine fois? Quelque chose en elle se briserait. Une certaine confiance. En la brise, justement. En la terre. En la surface de l'eau. En tout ce qui peut faire lit pour elle. Dita n'a pas de mots parce que le bruit, croit-elle, remplace sa pensée. Du monde réel, elle ne connaît que la ville, une certaine sorte de ville, celle qui cherche à régner. En elle, dit AK, une liste complète d'échangeurs d'autoroutes, de boulevards circulaires qui se grimpent les uns sur les autres, vrai film d'anticipation. Le corps de femme est fait de coups de frein et de klaxons, d'insultes le long des voies, sur les bras, les bretelles, dans les airs, sous les roues et devant les pare-brises. Jusqu'ici, chaque fois qu'elle a quitté le jeu, elle est tombée où la tension monte, un pic, monte encore, où l'on bouscule, jette, se fait justice soi-même, retourne la violence contre soi, contre d'autres, au carrefour et dans les ruelles, sur les trottoirs, dans les boîtes à lettres, dans les urnes, au dehors, aux intersections, dans les angles morts. Sa perception des choses est née de ce qui heurte, de ces chocs successifs. Aussi, décrypter autrement ce qu'on entend, ce qui vibre. Est-ce possible pour elle ?
Au-dessus du lac, ma position n'est jamais tout à fait la même. Le nombre de places en moi varie. Le nombre et la puissance des réacteurs aussi. La trajectoire, n'en parlons pas. Oui, s'il est toujours le pilote, son appareillage change, mon être mécanique et électronique dépend d'autres numéros de série, d'autres chaînes d'assemblage, d'autres mains. Je suis au même moment au-dessus du lac. Celui-ci, l'unique, est de tous les autres lacs, de tous les océans, de toutes les terres asséchées, de tous les sommets des tours en pierre et verre, de tous les terrains vagues, de tous les visages tournés vers le ciel.
C'est l'avantage pour une machine d'être quantique. Non pas indécidable, mais décidé, bien au contraire, de toutes les décisions à la fois, sans conflit.
Je ne regarde pas au-dessus de moi. Il n'y a plus de ciel au-delà. D'autres cartes parlent d'étoiles, de constellations, de galaxies. Mais il fait trop noir, je tourne ma trajectoire vers le sol, les dépressions, les lacs. J'ignore ce qui se passe entre le pilote et son copilote et le reste de son équipage. Je ne ressens pas les gestes des stewards et hôtesses pour expliquer la sortie de secours, le masque à oxygène, le gilet de sauvetage. Je suis à chaque instant au bord de l'atterrissage d'urgence.
Ici, dans la nature, à quoi se fier ? Des animaux, des minéraux, des végétaux par centaines, autant de familles inconnues. Du bruit, du silence, des taquets clairs, fait-elle la différence ? Entre le ciel et l'eau, comment pour finir s'approprier les lieux ? En forêt, sans avion, au-dessus des arbres, sur le chemin. Monologue de Dita Kekler. Sur le chemin ? Quel chemin ? Celui qui mène au lac, vraiment ? Que reste-t-il des droites, des parallèles, de cette géométrie à laquelle se fier, essayer au moins, quand partout, ça donne l'impression de ruer, de brasser sans bouger ou presque. Sur les branches, des branches, et des branches encore. Au ciel, un entrelac de veines. Au sol, de l'écorce, je ne sais plus où donner de la tête. Je résumais ta voix, juste avant d'arriver au lac. Ta voix devant le lac, alors que je m'enfonçais. Que je remuais de la boue. J'aurais aimé, mais je crois qu'il me repoussait. On m'avait prévenu, impossible d'en faire le tour. Il se cambre, il se courbe. Il est cerné par les villages. Et sur la carte, les icônes indiquent camping, parc de loisirs, centre équestre, musée, monument historique, piscine. Et pourtant, il échappe, continue d'échapper. Il se rétracte, s'étend d'un tiers quand c'est l'hiver. Il piège. Je cherchais, je revenais en arrière. Je croisais un chasseur, son chien. Je passais d'un buisson à une églantine, à l'insecte long. Voilà, je levais les yeux, j'avais retrouvé la route, mais le lac... Je me suis transformée en pierre pour t'attendre un peu, espérer que tu m'appelles. Sur le sentier, je me suis séparée de la pierre et assise dessus. Je suis devenue livre, crayon dans le livre pour donner le change, mais pas seulement. C'était à nouveau question de contenance, pas seulement, je te dis. Dans la forêt, contrairement à ce qu'on imagine, il y a foule. Des promeneurs en couple, seuls, des cyclistes. Chacun se salue, se jette un coup d'œil. Moi, j'avais pris la forme d'une lectrice, de son siège de pierre, du livre qu'elle annote, de qui cherche du calme et n'a peur de rien. Ça fonctionnait bien. Mais le texte là-dedans, c'était quoi, au juste ? subir chaque matin la stridence du radio-réveil, l'appel au lever, au garde-à-vous, et avoir à ce moment, depuis son lit, la vision du bureau, là-bas, et du temps à y passer, assis, tête baissée vers l'écran.
C'était d'arriver le matin pour trier les mails, passer du temps, classer en liste, jusqu'à la première sonnerie du téléphone ou jusqu'au premier mail urgent. C'était lancer une blague potache à travers l'open space et dépressuriser d'un coup tout le bureau, pendant 5 minutes, avant que l'entrechoc plastique et liquide des claviers ne reprenne. C'était mettre le casque pour visionner une vidéo tout juste reçue par mail et ne pas rire trop fort, la faire suivre, éventuellement, choisir à qui. C'était au début répondre au téléphone de son voisin parti en pause, en réunion ou aux toilettes, se lever pour aller le trouver, finalement prendre un message et puis, avec le temps, laisser sonner, et s'énerver, car si ça ne répond pas finalement, pourquoi pas laisser sonner 10 fois ? Finalement, épuisé de ça, décroché, battu. C'était regarder par la fenêtre, celle des nuages et des feuilles d'arbres, celle de l'écran, un lien, un paragraphe lu rapidement, une photo, c'était aller ailleurs, y croire. C'était se donner rendez-vous, par téléphone, messagerie, par un signe, à la machine à café, et discuter du chef, du commercial, du patron, de politique, de foot, et faire durer, un peu, la conversation, un peu plus la pause, jusqu'au moment où un des collègues, parfois nous-mêmes, ne tenait plus, était rattrapé dans ses pensées par le travail à faire, par le travail à rendre, par l'heure, bon je dois y aller, et le groupe sur ce de se séparer, certains soulagés, certains contrariés. C'était descendre fumer une cigarette, appeler les compagnons d'infortune qui, l'hiver, iraient souffler avec nous dans le froid, ou les profiteurs qui, l'été, resteraient un peu plus longtemps sur le trottoir, au soleil, attirant 2 clopes au lieu d'1. C'était le midi à la boulangerie, prendre une formule sandwich boisson dessert et récupérer un avoir ou la monnaie du ticket restaurant et se dire qu'on gagnait là quelque chose dans cette monnaie. C'était se lever de sa chaise 5 roulettes, dossier et siège réglable et aller voir tel collègue pour tel sujet projet et, sur le trajet, discuter, plaisanter avec qui l'on croise, faire un détour par tel bureau. Pareil au retour, mais plus rare à cause de l'information maintenant en main qui poussait, exigeante, autoritaire au poste de travail et qui allait guider les heures suivantes jusqu'au soir, c'était arrivé avant les autres, car parti de chez soi un peu plus tôt, chance aux correspondances, parfois être le premier, désarmer l'alarme et trouver le bureau calme, être seul. C'était se lever pour chercher la télécommande de la climatisation, négocier avec ceux du même open space, du même îlot, la ventilation, la température. C'était ouvrir son tiroir à heure fixe, 11h et 16h, pour en tirer un biscuit, un fruit, un sachet de thé, et se préparer à cet instant de casse. En fait, c'était d'y penser dès la préparation, dès la pensée de la préparation. C'était commencer dès cette pensée pour mieux faire durer. Et après aussi, le goût du biscuit, du thé dans la bouche, sans souvenir quand les doigts se remettaient au clavier. C'était retourner à son poste de travail, à son écran, à son clavier, à sa souris, à son projet, à ses objectifs, être productif, tenir et réussir, parfois à croire soi-même et faire croire à sa propre productivité, et ainsi, un temps soufflé comme satisfait d'avoir bien fait. C'était regarder par-dessus son écran, à la recherche d'un regard, d'un autre oisif de quelques secondes et échanger quelques mots ou le signe d'une pause à faire en commun, ou aucun signe particulier. Autre que la reconnaissance du labeur partagé, du corps ici sur la chaise à roulette face écran, puis se remettre à la tâche assignée. C'était retirer le temps au temps, chaque matin, dans le bus ou le métro, fermer les yeux, casque sur les oreilles et musique fort pour recouvrir le monde. Dormir et ouvrir les yeux à la station comme si rien ne s'était passé ou comme si c'était un rêve dont on s'éveillerait le soir éteignant la musique chez soi. C'était garder le casque au bureau derrière l'écran et avoir posé la tour de l'ordinateur sur le bureau, côté couloir, près de l'écran, rempart, naturel, contre les assaillants du jour. C'était envoyer un mail trop vite, oublier la pièce jointe ou regretter une tournure qui pourrait paraître imprécise, blessante, arrogante ou trop timide. C'était regarder par la fenêtre et chercher du regard la tour Montparnasse, la tour Eiffel ou la basilique du Sacré-Cœur et se dire « Je suis à Paris, après tout, je suis à Paris, combien envie mon sort dans le monde entier, combien envie mon sort ?» C'était lire Lire en entrant dans le métro et du métro en sortir en lisant. C'était poursuivre sa lecture sur le trottoir, ne pas s'arrêter. Impossible dans ce passage-là, une scène coupe-souffle qui fait tourner les pages. Marcher en lisant et en évitant les obstacles, levant les yeux de la page le moins possible, utiliser sa vision périphérique, trottoir, hauteur, rue, feu, voiture, vitesse, piéton, trajectoire, détritus, degré de salissure, crotte, éviter. Et arriver dans la rue du bureau, toujours lisant, ralentir le pas, lire, lire dans le hall, lire, lire dans l'ascenseur, lire, il fallait bien ensuite s'arrêter de lire.
La forêt. Je suis tombée à cet endroit-là, mais il est possible d'attendre partout, je suppose. Il n'arrivait rien. Ni lac, ni ta voix. Cette voix qui n'est pas la mienne, et que je détache des autres. Une contre-voix, en somme. Les promeneurs en couple discutaient de fièvre et de confiture, arpentaient leur vie quotidienne. Enfants, petits-enfants, goûter et convalescence. Je ne sais plus de quoi je voulais te parler. De choses aussi terre à terre, peut-être. Mais que te dire s'ils pouvaient m'entendre? Le lieu est plein à craquer de voix hautes. Fallait-il ajouter la mienne? Entre deux balises, quand j'ai lu « chasse gardée » et « attention à, surtout ne pas entrer sous peine de... » J'ai perdu les mots, la concentration. J'ai changé de cap. Devant moi, un champ de lanières.